or no.
Say yes or no. Yes or no.
La question que nous vous posions vendredi pour aujourd'hui était la suivante. L'ultra-violence est-elle devenue, selon vous, oui ou non, une marque de nos sociétés? Eh bien, c'est sans appel. Hein. 96% de oui sur Facebook, 100% de oui sur X et 96% également de oui sur Insta. On va voir ce qu'en pense notre invité qui a commis, si on peut dire, un livre intitulé « La culture de l'ultra-violence ». Il s'agit de Rachel Kahn, journaliste, essayiste, comédienne et auteur par la même occasion. Et donc, elle a justement traité cette question sous toutes les coutures. Élise, je vous propose de discuter de cela avec elle.
Rachel Kahn, bonjour.
Bonjour, Élise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous voyez, c'est pas très optimiste, on va dire, que nos auditeurs soient quasiment à 100% sur tous nos réseaux sociaux convaincus que l'ultra-violence est devenue une marque de nos sociétés. Mais malheureusement, c'est exactement le constat que vous faites dans votre livre, Rachel.
Oui, en fait, je pense que c'est un constat effectivement partagé. Et mon objectif était de mettre des mots sur notre ressenti. C'est-à-dire que on sait que nous vivons dans un monde ultra-violent. Le sens de l'ultra-violence, c'est plus simplement de la violence pour faire mal, mais aujourd'hui, c'est de la violence pour tuer. Et j'ai regardé comment cette violence s'installe, prendre du temps pour faire l'anatomie justement de cette violence et pour tenter de mettre des mots, ce qui fait que peut-être de réparer un petit peu les lecteurs, c'est-à-dire en fait trouver les mots qui permettent de dessiner cette violence pour mieux la combattre.
Alors c'est vrai que en lisant votre livre, Rachel, j'ai été atterrée en fait du nombre de violences qui existent dans nos sociétés. C'est pas qu'on n'en a pas conscience, mais là, comme vous avez disséqué, il y a la violence psychologique, la violence verbale, la violence sociale, la violence intérieure, la violence sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'habitue en fait.
Exact.
Et
c'est ça.
Horrible.
C'est ça. Ouais. C'est ça, on s'habitue complètement sans prendre conscience de ce qui nous fait mal, de ce qui nous blesse. Comme si on était anesthésié par cette violence, alors même qu'elle nous entache, alors même qu'elle nous abîme, et alors même que petit à petit, si on ne fait pas attention, on risque de ressembler à cette haine que l'on combat. Et ça, c'était vraiment un des objectifs de l'ouvrage, ne pas ressembler à cette haine et à cette violence.
Alors, comme j'ai dit, Rachel, vous disséquez cette violence et notamment, il y a plusieurs exemples qui m'ont choquée. La violence verbale, quand vous dites « oui, en fait, on dit c'est pour rire, je rigole
ouais. ». Oui,
on a l'habitude, en fait. Ouais.
On l'entend très bien. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les certaines personnes, et malheureusement jusqu'à nos plus hautes sphères politiques ou médiatiques, tente de faire passer cette violence verbale par un trait d'humour alors que c'est un ricanement qui fait mal et que ça n'a rien de drôle. On l'avait vu d'ailleurs après le 7 octobre avec Guillaume Meurice notamment, qui a toujours voulu nous faire croire que de parler de nazis sans prépuce pour Netanyahou, c'était vraiment une blague. Ou à mon endroit aussi avec Medine Rescanpé, en utilisant mon nom, un jeu de mots, que c'était un trait d'humour. En réalité, voilà, il faut savoir faire la différence entre les traits d'humour et ce qui est voire pénalement condamnable et surtout moralement condamnable.
Alors, quand vous parlez de la violence physique, vous racontez qu'aujourd'hui, c'est le quotidien de notre société, que ça frappe dans les rues, les foyers, les transports, les commissariats, l'hôpital et jusque dans les salles de classe. Et on parle souvent de la violence physique. C'était le départ de ce pourquoi on avait posé cette question du jour, puisque évidemment, ça rejoint, avec l'affaire de Quentin notamment, la violence politique et celle, en tout cas en France particulièrement, celle de la France insoumise.
Ah, totalement. C'est-à-dire, en gros, évidemment, on le sait, mais de l'écrire, c'est encore autre chose. Comment la violence verbale, la violence idéologique, la violence symbolique se transforme ensuite après les réseaux sociaux ou après les tribunes, en violence physique jusqu'au fait de tuer. Mais je veux vous dire quelque chose. Lorsque j'ai écrit ce livre, donc c'était en fin d'année 2025, je l'avais fait pour un objectif précis, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, j'avais dit à mon éditrice, non mais si ça se trouve, ça sera plus d'actualité. Et ouais. Le livre est sorti la semaine de Quentin, c'est-à-dire la semaine surtout du meeting de Rima Hassan, parce qu'il faut rappeler quand même le point de départ, le meeting de Rima Hassan, donc du palestinisme au sein de la fac de Sciences Po Lyon, et on en est arrivé là. Et malheureusement, j'aurais aimé me tromper, mais elle est de plus en plus palpable, cette violence physique.
Alors, vous expliquez au chapitre 8 exactement, Rachel Kahn, que la haine du juif, en fait, c'est le moteur de toute cette matrice de la violence. Que la violence contre les juifs, je vous cite, est singulière, car elle est l'incarnation la plus parlante de toutes les autres violences. C'est absolument, c'est pas qu'on est étonné, mais c'est atroce, en fait, à comprendre.
C'est pour ça que j'ai disséqué, mais vraiment, de manière chirurgicale, les différentes formes de violence, et c'est vrai que mon objectif au départ était uniquement d'écrire sur la haine du juif et la violence du juif et la volonté de tuer ce juif de manière symbolique, psychologique, physique, etc. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais on dit souvent, après ça, le samedi, le dimanche, on dit souvent que Israël est en première ligne. On dit souvent que les Juifs sont en première ligne dans le monde libre, mais qu'ensuite, ce sera les autres. Et en fait, on n'explique pas bien, on prend pas le temps de l'expliquer. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la violence de manière générale, comme vous l'avez dit, verbale, politique, idéologique, symbolique, juridique, et autres, pour ensuite expliquer de manière concrète en quoi la haine du juif avait été un laboratoire de l'ensemble de cette violence et ce qui a permis finalement d'ouvrir la porte, la clé. On commence d'abord par le juif et ensuite, c'est le reste de la population, le reste des citoyens. Mais on s'est déjà habitué avec la haine du juif.
Oui, c'est affreux.
Mais là, concrètement, ça me permet d'avoir vraiment quelque chose de très tangible avec les différents exemples et puis évidemment des exemples aussi personnels.
Alors justement, vous dites à quel point dans la violence idéologique, tout est orchestré, la fabrique de l'ennemi parfait se joue en quatre temps, falsifier le réel, monopoliser le cœur, intimider le contradicteur, ritualiser la haine. C'est vraiment un scénario systématique, en fait.
Oui, totalement. Puis on a bien vu avec l'affaire de Quentin et d'autres qu'on a appliqué très précisément la même méthode. Inverser la victime est devenu bourreau, les fake news, les fantasmes, pour faire même jusque dans la mort, tuer une seconde fois, cracher sur les victimes de ce terrorisme intellectuel qui est nourri par la France insoumise notamment et par l'extrême gauche et par cette jeune garde qui est une milice en fait de LFI, mais que tout est orchestré comme on avait pu le comprendre après le 7 octobre.
Alors, je voudrais qu'on termine quand même sur une note positive rapidement, Rachel. Au début du livre, vous dites « J'écris à cause des calomnies orchestrées du fait de mes origines, conjuguées à mes opinions. J'écris parce que je suis libre. » Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit bien que vous n'allez pas lâcher l'affaire contre la violence en question.
Ah non. Non, non, pas du tout, parce que j'ai pas du tout envie que l'on ressemble à ces haineux. Donc, c'était vraiment un livre que j'ai écrit pour partager avec l'ensemble des lecteurs. Et puis, vous savez, aujourd'hui, comme c'est pour Rime, on peut se déguiser en haineux pour rigoler, mais quand les masques tombent, il faut les dénoncer et nous rester dans la joie. Voilà, c'était mon message pour cet ouvrage.
Eh bien, ça me paraît le message parfait. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Je rappelle le titre, La culture de l'ultra-violence chez Fayard. Ça se lit vraiment vite et en même temps, ça vous donne des pistes de réflexion intenses et j'espère peut-être même des pistes de bataille. Parce que
exactement,
c'est aussi
pour rester bien debout et résister à tout ça.
Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Une très bonne journée. À très vite.